Bonjour et bienvenue dans l'atelier des médias. Le 8 octobre prochain doit s'ouvrir à Paris le procès en correctionnel de la banque suisse UBS. Elle est soupçonnée d'avoir démarché illégalement des clients en France et de les avoir aidés à dissimuler leur argent en Suisse. Selon l'enquête des juges d'instruction français, au moins 10 milliards d'euros ont traversé illégalement la frontière de 2004 à 2012. Si ce procès peut avoir lieu, c'est grâce aux informations que l'État français a obtenues de plusieurs lanceurs d'alerte. Parmi eux, une femme, Stéphanie Gibaud, a permis aux juges d'identifier plus de 38 000 comptes offshore appartenant à des Français. Stéphanie Gibaud, une femme qui en savait trop, c'est une émission de Simon Decreuse, Ziad Malouf et Léo Caravagna.
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera, que sera, sera.
Je m'appelle Stéphanie Gibaud, j'étais responsable marketing et communication de la banque suisse UBS, UBS qui est l'ancienne Union des banques suisses et qui avait été en 1997 le résultat de la fusion de l'Union des banques suisses et la Société de banques suisses. Donc ce qui s'appelait la nouvelle UBS était devenu le mastodonte financier numéro un au monde et notamment numéro un en gestion de fortune. Donc moi je travaillais dans un club de football avant d'arriver chez UBS. Mon métier, ma carrière a toujours été liée à l'événementiel, à tout ce qui s'appelle RP, donc RP relations publiques. Et chez UBS, quand je suis rentrée en 1999, c'est-à-dire quand la structure a été créée en France, nous étions 40. Mon métier pendant les 12 années que j'ai passé chez UBS a toujours été le même, c'est-à-dire que je me suis occupée de l'image de la banque, essentiellement d'événements, de ce qu'on peut appeler de plateforme RP, donc relations publiques. J'avais des budgets quand même colossaux parce que c'était une banque qui avait vraiment vécu un développement pendant 10 ans avec des bureaux de province ouverts dans toutes les grandes villes, de Lyon à Cannes, à Strasbourg, à Lille, à Nantes et à Bordeaux. Donc en fait, moi, pendant presque 10 ans, je ne vois pas le jour parce que j'organise jusqu'à une centaine d'événements par an. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est. C'est-à-dire que j'ai un rythme tel que je vois plus les aéroports, je vois plus les chambres d'hôtel, que je ne connais mon propre appartement et que je ne vois mes propres enfants. C'est-à-dire que c'est un rythme absolument incroyable parce qu'il faut que cette start-up se développe, parce qu'il faut faire rentrer de l'argent, parce qu'il faut faire ouvrir des comptes. UBS qui avait ouvert à Paris en 1999, à partir de 2001, maille le territoire avec des bureaux un petit peu partout. Et donc moi, mon métier pendant ces 10 années, c'est-à-dire 1999 à 2008, est d'organiser des événements sur la totalité du territoire français, avec le plus souvent la collaboration de mes collègues d'UBS à Genève, qui travaillent, elles, pour France Internationale. Et donc, qu'est-ce que c'est que France Internationale ? Ce sont les équipes de banquiers suisses, alors basées à Genève essentiellement pour la France, mais aussi à Lausanne et à Zurich et à Bâle, qui gèrent la fortune offshore des résidents français et des Français. Voilà. Donc, moi, on ne m'a jamais dit de ne pas travailler avec eux, bien au contraire. On nous a surtout demandé une étroite collaboration et j'ignore, jusqu'en 2008, que quelque part, tout ce que je fais est sujet à des dysfonctionnements que je n'aurais jamais soupçonné, jamais imaginé. Et pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est que cette nouvelle UBS, donc, qui est la fusion de l'Union des banques suisses et de la Société de banques suisses, est la banque la plus puissante au monde. Donc, c'est une marque de confiance de travailler et de fierté aussi de travailler pour une entreprise qui est aussi ancienne, qui vend partout sa tradition suisse justement d'excellence. Et aussi UBS, c'est la banque au monde qui est la mieux notée par ses pairs. C'est-à-dire que dans le cinéma, par exemple, vous connaissez les Oscars ou les Césars, c'est-à-dire que les gens de la profession cinématographique se notent entre eux. Et bien pour les banques, c'est pareil, il y a un classement tous les ans qui s'appelle Euromoney, et UBS, pendant toutes ces années, a toujours été, et d'ailleurs pratiquement depuis l'affaire qui a éclaté il y a 10 ans, est pratiquement toujours la première en termes de gestion de fortune, en termes de rentabilité, etc., etc.
Comment qualifier un groupe financier fort de 66 000 spécialistes dans 50 pays qui sait prendre le temps de comprendre vos besoins. N'est-il pas le partenaire bancaire le plus proche de vous au monde ? Vous et nous, UBS.
Et en 2007... Je sens qu'il y a quelque chose qui commence à pas aller au niveau de l'ambiance. Les gens sont excessivement tendus, sont très agressifs. Alors, UBS a jamais été un employeur très facile. Mais là, je sens vraiment que de partout, ça craque. Un petit peu comme un bateau qui a des, vous voyez, des minuscules fuites dans sa coque. Et vous vous dites à un moment donné, bon, c'est un peu comme le Titanic, ça peut pas prendre l'eau. En même temps, comme on a tous vu ce film, moi, je suis quelqu'un d'assez, comment dire, qui porte beaucoup d'attention aux détails. Et je me suis dit, qu'est-ce qui peut se passer ? Et je me retrouve un vendredi soir à 20h au bureau, en toujours débordé par des tonnes de choses qui me tombaient dessus. Et je reçois une invitation donc, de Patrick de Fayette pour être dans son bureau le lundi matin à 9h avec la DRH et ma supérieure de Genève. Et là, je me dis, mon Dieu, je suis virée. Et j'arrive le lundi matin, j'ai pas dormi pendant 3 nuits. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Et on est en septembre 2007. Et en fait, on me dit, mais non, Stéphanie, on vient juste annoncer une très bonne nouvelle. Nous avons décidé de restructurer ton département parce que tu cours toujours, parce que tu n'es jamais disponible, parce que tu n'as jamais le temps de te poser. Ah, mais je dis, alléluia, ça fait 10 ans que justement, je crie, enfin, je vais pouvoir avoir une vie un petit peu plus tranquille, où je vais pouvoir me poser, faire un certain nombre de choses avec un peu plus de réflexion, avec un peu plus de hauteur, de voir si de manière stratégique, on peut pas organiser d'autres types de plateformes pour les clients. Et puis en fait, donc, qu'est-ce qui se passe à cette réunion du lundi matin en septembre 2007 ? Eh ben, on me dit, mais Stéphanie, nous avons décidé de recruter quelqu'un qui va chapeauter ce département marketing. Et donc, cette femme arrive de BNP Paribas en octobre 2007, au moment où explose l'affaire américaine, avec donc un de mes anciens collègues, Bradley Birkenfeld, qui travaillait sur le desk America International, c'est-à-dire l'offshore de tous les clients américains à Genève, et qui est allé expliquer aux autorités américaines qu'il aidait ses propres clients à frauder le fisc. Quel est l'intérêt pour quelqu'un, finalement, qui fraude, parce que je ne sais pas comment on peut dire autrement, d'aller dénoncer son employeur en expliquant que lui, il tire la sirène d'alarme en interne côté américain depuis un moment et qu'il a des problèmes avec UBS. Bon. Et ça reste aux États-Unis, sauf que moi, j'ai une partie de ma famille qui travaille pour le gouvernement américain et qui vit aux États-Unis et qui m'envoie des tonnes d'informations qu'on n'a pas, nous, en France. Et donc, moi, j'ai une grille de lecture qui n'est pas tout à fait la même. Parce que sur cette affaire UBS aux États-Unis, la banque ne communique absolument pas en interne. Il y a une cellule à Zurich qui s'appelait Press Office ou quelque chose comme ça, qui régulièrement envoyait des informations à tous les collaborateurs sur ce qui se passait sur UBS dans le monde. Sur cette histoire Birkenfeld, on n'a absolument jamais eu d'informations écrites et précises. Bon, et donc ben moi, pendant ce temps-là, j'ai cette supérieure hiérarchique qui arrive et toute mon activité, tout mon quotidien est complètement bouleversé. La stagiaire donc pas renouvelée. l'assistante mutée sur un autre bureau parce qu'a priori il n'y avait plus assez d'activité dans notre bureau qui nécessitait une assistante. Et finalement moi, au lieu de courir le pays comme je l'ai fait pendant 10 ans et d'aller rencontrer les chargés d'affaires et les équipes en province, eh bien je suis finalement assignée à mon bureau. Et au fur et à mesure des jours et des semaines, l'ambiance est très très lourde parce que je m'entends pas très très bien avec cette femme qui vient d'arriver. Puis l'affaire Birkenfeld qui monte en puissance dans tous les médias à l'international, où tout le monde comprend justement par médias interposés que la banque va peut-être perdre sa licence aux États-Unis, qui est le pays le plus important pour UBS, puisque c'est là où elle a la masse d'actifs et la masse de prospects et de clients la plus importante. Et en même temps, éclate la crise des subprimes, où on apprend toujours la même chose par médias interposés que UBS est la banque étrangère la plus impactée par la crise des subprimes, et éclate un troisième volet qui est l'affaire Madoff, où on reçoit d'ailleurs de Zurich, du fameux press office dont je vous parlais tout à l'heure, un mail qui dit: écoutez, on ne comprend pas bien ce que racontent les médias à l'international, nous on n'a rien à voir avec cette affaire Madoff. Et un matin je reçois les échos à mon bureau, je me souviens toujours, où j'ai appris par médias interposés qu'UBS était le dépositaire du fonds Madoff au Luxembourg.
Donc ce fonds Madoff qui est une arnaque.
Absolument. Et là, si vous voulez, moi je me dis, mais je ne dois pas être comme tout le monde parce que je me pose beaucoup de questions. Je vois bien qu'il y a une ambiance dans la banque qui est... Mais une ambiance, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est à la fois une ambiance de guerre et à la fois une ambiance de mort. C'est-à-dire que c'est le monde des poissons, le monde du silence. Alors, on est bien d'accord qu'une banque, c'est pas un club de football, là, pour le coup. Mais vous voyez que, si on repart sur cette histoire du Titanic, bah, que la coque, elle est en train de prendre de l'eau de partout. Parce que là, ce sont les trois banques. C'est-à-dire la banque de gestion de fortune aux États-Unis, crise des subprimes, là, c'est la banque d'investissement, et l'affaire Madoff, c'est la banque qui est la banque asset management. Vous vous dites, mais enfin, c'est juste pas possible qu'on nous ait autant menti. Et finalement, il n'y a que moi qui ai l'air de m'inquiéter là-dessus. Alors tout ça, c'est très complexe. Et jusqu'en juin 2008, moi, je vis comme ça, à lire les médias, à entendre ce que me disaient mes amis et ma famille aux États-Unis. Et puis un matin, j'étais à mon bureau, comme tous les matins, puisque je sortais pratiquement plus, à organiser un tournoi de golf avec nos amis de Genève qui devait avoir lieu plusieurs mois plus tard. Et cette fameuse supérieure hiérarchique, Roselyne, arrivée fraîchement de BNP Paribas, entre comme une furie dans mon bureau, mais c'est vraiment une scène de cinéma, hein. Moi, mon bureau était au fond d'une pièce. Arrivée vers moi en passant la porte en disant « Une perquisition a eu lieu dans le bureau de Patrick de Fayette ». Directeur général. Alors moi je dis « Ah bon ?» Mais « Ah bon ?» dans le sens où c'est tellement grave que ça mérite des explications. Donc je demande des explications. On me dit « Non, c'est pas votre problème, mais vous allez détruire de votre disque dur tous les fichiers informatiques liés aux événements que vous allez organiser depuis que vous êtes arrivé à la banque. » Je dis « Pardon ? Dépêchez-vous, obtempérez. » Pas de questions à poser. Mais je dis, mais si, qu'est-ce que c'est que cette histoire de perquisition? Parce que je vois vraiment pas, moi, à ce niveau-là, et en juin 2008, quel peut être le rapport entre la perquisition dans le bureau de Patrick de Fayette et mon métier. Et puis, donc, cette supérieure hiérarchique part en disant, dépêchez-vous, c'est important, étant donné les circonstances. Voilà. Have you got color in your cheeks? Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee.
you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and run. You're out of view, cause I always do. Maybe I'm too busy being lost.
Vous écoutez l'Atelier des médias. Cette semaine, entretien avec la lanceuse d'alerte Stéphanie Gibault, une émission signée Léo Caravagna.
Comme j'étais occupée sur ce golf, et moi j'avais un métier où le téléphone sonnait tout le temps et où les mails tombaient les uns après les autres toutes les 10 secondes, donc je prête pas trop attention à ça. En rentrant chez moi, je dis quand même à mes enfants, il y a un truc très bizarre, une perquisition, qui fait une perquisition et pourquoi ? Je vois bien qu'il y a un truc, un, que je maîtrise pas, mais que là, pour le coup, c'est un peu comme l'histoire, on repart sur le Titanic, c'est vraiment un iceberg qui est face à nous et dont... Moi, passager, finalement, je perçois pas le périmètre du danger, en fait. Et cette fameuse supérieure hiérarchique revient dans mon bureau dans les jours et les semaines qui viennent pour me demander si j'ai bien exécuté son ordre. Et là, est-ce que c'est parce que j'ai la personnalité que j'ai ? Est-ce que c'est parce que j'ai... Voilà, toute ma famille américaine qui m'envoyait des informations sur ce qui se passait, notamment avec l'affaire Birkenfeld, et que je suivais un peu ces histoires avec le Department of Justice. Je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que donc, on me demande de détruire ces archives informatiques, mais dans les semaines qui viennent, quand cette supérieure hiérarchique va revenir à nouveau dans mon bureau de manière très pressante, me demander de détruire ces données, elle va aussi me demander de détruire le contenu de mes deux armoires d'archives qui contenaient finalement le même type de données. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces fichiers ? Qu'est-ce qu'il y avait dans ces archives ? Eh bien, écoutez, c'était des tableaux sur lesquels je notais le nom, le prénom, éventuellement l'adresse et le numéro de téléphone des invités, donc qu'ils soient clients ou prospects, c'est un client potentiel. Et puis un certain nombre d'informations. Il y a des gens qui sont, par exemple, handicapés, en fauteuil roulant, enfin voilà, qu'il faut proposer un certain nombre de services, puisque la gestion de fortune, c'est quand même avant tout être à l'écoute de ses clients. Donc moi, mon métier RP, relations publiques, c'était justement de savoir si Monsieur Machin prenait un croissant et que Madame Dupont prenait un pain au chocolat, vous voyez ? C'est-à-dire que vous êtes l'image d'un service bancaire. Et donc, je ne détruis pas ces données en juin 2008 parce que je n'y comprends strictement rien. Je vois qu'on me met la pression pour aussi détruire toutes mes archives papier. Je comprends qu'on veut se débarrasser de moi, mais je ne comprends pas pourquoi. C'est-à-dire, je ne comprends pas ce qui, dans mes fichiers, peut avoir un rapport soit avec l'affaire américaine, soit avec la perquisition dans le bureau du directeur général. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que donc dans ces fichiers, il y avait toutes les informations concernant des clients pour être capable de les servir comme l'exigeait mon métier. Mais chaque client était relié à un chargé d'affaires. Donc un chargé d'affaires, un banquier. Et le banquier était soit en France, soit en Suisse.
En France et dans de nombreux pays, il est illégal pour une banque étrangère de démarcher des clients sans détenir une licence. Ça s'appelle du démarchage illicite. UBS en est soupçonné dans l'affaire qui sera jugée à partir du 8 octobre. Pour les clients, il est illégal de placer son argent à l'étranger, par exemple en Suisse, sans le déclarer. C'est de l'évasion fiscale. UBS est là aussi accusé de blanchiment de fraude fiscale.
Comme j'ai organisé ces plateformes événementielles avec mes collègues de Genève, qui, elle, gérait la clientèle française offshore, on a toujours communiqué sur le nom des clients, qui effectivement étaient clients ici et clients là-bas, de manière très ouverte. Moi, on ne m'a jamais dit « attention, il y a quelque chose de répréhensible », on ne m'a jamais parlé d'évasion fiscale, on ne m'a jamais parlé de blanchiment de capitaux, on ne m'a jamais parlé de tout ce que j'ai découvert à partir de 2008. Parce que du coup, avec mon histoire qui fait un petit peu de bruit dans la banque, parce que tout le monde voit bien que cette supérieure hiérarchique, elle n'a pas un profil comme celui qu'on avait eu nous depuis qu'on était là. C'est quand même elle qui me remplace à toutes les réunions. Je n'envoie plus un mail puisqu'elle me demande à ce que je lui envoie tous les emails que j'envoyais aux banquiers et qu'en fait elle les regarde, elle les corrige, elle les je ne sais quoi, et c'est elle après qui est l'interlocuteur des banquiers. Donc moi je suis sortie, si vous voulez, d'un périmètre qui était le mien depuis 10 ans. Je ne sors plus de mon bureau, je n'envoie plus de mails. Et puis, commencent des reproches, les reproches qui sont que je passe beaucoup trop de temps au téléphone avec les clients, que je fais beaucoup trop de bruit dans le bureau, que je confonds le franc suisse et l'euro, que mes collègues se plaignent de moi et qu'elles n'osent pas me le dire directement. C'est-à-dire que moi qui ai déjà tendance, comme beaucoup, à culpabiliser, là je me dis, mais non seulement je ne suis plus compétente, mais en plus, enfin je ne suis pas quelqu'un de bien, mais qu'est-ce qui se passe Je ne comprends pas. Et donc je me rapproche de collègues de la banque qui ont eux-mêmes des problèmes avec leur hiérarchie. Et au fur et à mesure des semaines, finalement je tire un fil. C'est-à-dire que chacun m'explique qu'effectivement, les événements que j'organise pour la banque et notamment avec France International, donc nos fameuses collègues marketing à Genève, servent bien évidemment parfois à ouvrir des comptes ici en France et il n'y a aucun souci là-dessus puisque la banque dépendant de la Banque de France, tous les actifs en France sont déclarés, mais qu'ils aident aussi à, et là c'est la première fois de ma vie où j'entends ça, à l'évasion fiscale, à des comptes offshore non déclarés. Et moi, je suis la première à être sceptique, c'est-à-dire à dire, mais de quoi vous parlez? UBS est la banque de gestion de fortune la mieux, comment dire, la plus puissante, la plus ancienne au monde et qui est le mieux notée par ses pairs. Malgré l'affaire Birkenfeld aux États-Unis, elle continue à être... Je dis, mais de quoi est-ce que vous me parlez? Et en fait, il m'explique très gentiment et de manière vraiment très précise, ces gens-là, qui sont des patrons de région, qu'en fait, eux, sont montés au créneau parce qu'ils n'acceptent plus cette dictature du carnet du lait. Et là, à nouveau, je dis, mais de quoi est-ce que vous me parlez?
L'atelier des médias, Ziad Malouf.
En Suisse, quand un producteur de lait fait une livraison à un laitier, il est de tradition qu'il en note les détails dans un cahier, un carnet de lait. Les carnets de lait, c'est également ainsi qu'ont été appelés les documents sur lesquels Patrick De Fayette, alors responsable des commerciaux français d'UBS, est soupçonné d'avoir noté les performances inavouables des membres de son équipe. Ainsi, quand un commercial français adressait un client à ses homologues suisses, même si cette recommandation n'apparaissait pas officiellement dans ses activités, elle était soigneusement notée au crayon à papier par son supérieur afin d'adapter les primes annuelles aux résultats réels.
On est après juin 2008. En juin 2008, il y a une perquisition dans le bureau de votre supérieur à UBS France. Suite à cette perquisition, on vous ordonne de supprimer tous les fichiers que vous avez depuis votre arrivée dans la banque. Donc ça fait 10 ans de travail que vous devez supprimer. Vous ne comprenez pas pourquoi, puisque vous n'êtes pas bancaire. Votre métier, c'était d'organiser des événements pour attirer les clients et potentiels clients de la banque. Et donc, après que vous ayez refusé de supprimer ces fichiers, on est donc à l'été 2008, des collègues s'approchent de vous et vous parlent de carnet du lait.
Je ne vous ai pas dit, mais en parallèle à mon métier, c'est-à-dire d'être responsable marketing, communication, relations publiques, j'étais secrétaire de ce qui s'appelle le comité d'hygiène, de sécurité des conditions de travail, le CHSCT.
Juste explique, le CHSCT, c'est une instance où se réunissent des élus du personnel, donc comme vous, vous en étiez la secrétaire, pour discuter de tout ce qui est conditions de travail au sein de l'entreprise, les rythmes de travail, les congés, etc., avec la direction de l'entreprise.
Donc, ces collègues qui s'approchent de moi donc, m'expliquent qu'eux-mêmes ont des soucis avec leur hiérarchie. Alors, il y a beaucoup de types de collaborateurs. On a beaucoup entendu dans les médias les banquiers. Mais il y a aussi des gens du back-office qui se rapprochent de moi et qui m'expliquent des trucs un petit peu complexe pour moi, qui justement ne suis ni une comptable, ni issue du monde de l'informatique ou du monde financier. Et en fait, je rencontre des gens qui me racontent des choses mais apocalyptiques. C'est-à-dire que, à moi toute seule, je reconstitue un pulse et commence à comprendre quelle est l'entreprise que je représente finalement si bien à l'extérieur, sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Tout ce que j'ai découvert, c'est-à-dire ce qu'on me raconte au niveau de cette comptabilité parallèle, au niveau de la méritocratie érigée en culture d'entreprise à laquelle moi je croyais dur comme fer, où on me dit « mais non Stéphanie, parce que les banquiers qui suivent le code de déontologie et donc tout ce qui a à faire avec la régulation de l'AMF, hein, l'autorité des marchés financiers, ou de l'ACP, autorité de contrôle prudentiel, tu oublies, parce que les banquiers qui aident ou qui incitent leurs clients à ouvrir des comptes offshore non déclarés, puisque c'est aussi eux qui m'apprennent que 95% des actifs en Suisse ne sont pas déclarés. Donc ces banquiers qui aident ou qui incitent leurs clients à ouvrir des comptes en Suisse non déclarés ont des bonus bien plus importants que ceux qui respectent la réglementation. Et là vous vous dites, mais attendez, c'est juste pas possible. C'est une manipulation, c'est une machination. Et une fois de plus, c'est silence radio. Donc moi, j'ai pris un avocat, ça devait être en septembre-octobre, qui me dit... bah écoutez, vous allez voir vos dirigeants, vous les connaissez bien puisque vous avez été embauché à l'ouverture de la banque, et vous allez leur poser des questions, etc., etc. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré la DRH, Mine plus 2. Elles m'ont toutes dit, toutes les deux, que j'étais très fatiguée, que je devais prendre des vacances, que d'ailleurs tout le monde se plaignait de moi, avec notamment cette relation avec ma nouvelle supérieure hiérarchique, qu'il fallait peut-être que je prenne des vacances parce que je raconte des histoires où j'ai vu des banquiers suisses dans la banque depuis 10 ans, alors que Stéphanie, c'est juste pas possible. Puisque c'est illégal, tu sais bien que jamais on aurait pu embaucher des gens ou les faire venir sur les événements que tu organisais. C'est impossible, ça n'a jamais existé. Donc il y a deux personnes qui vous disent ça, qui sont quand même des gens qui sont au directoire de la banque. Vous vous dites, mais je dois être devenue folle. C'est-à-dire que là, psychologiquement, on touche à des parties de votre cerveau. Vous vous dites, mais que se passe-t-il? Vous sentez un peu comme les animaux dans la savane, qu'il va y avoir un incendie ou un séisme. Vous ne savez pas d'où ça vient, vous ne savez pas ce qui se passe, vous savez juste que c'est... extrêmement grave. Et en septembre, comme j'étais en train d'organiser un tournoi de golf, vous avez des clients, vous savez combien parmi vos clients jouent au golf, donc en gros, d'une année sur l'autre, vous avez quand même la même base de clients qui jouent au golf, où vous avez à la fois leur handicap, etc., etc. Et j'ouvre un premier fichier, donc en septembre-octobre, un premier fichier, vide. Un deuxième fichier, vide. En fait, bref, j'en ouvre une dizaine, une vingtaine, une cinquantaine comme ça. Mais je me dis, mais il y a un truc que je ne comprends pas. Quand je m'aperçois que les fichiers informatiques ont été, ce qui s'appelle techniquement, expurgés de leur contenu, j'ai appelé l'informatique qui n'a rien répondu. Donc moi, j'ai pas de rappel, à part qu'on me dit, bah, écoute, non, tout va bien. Et Patrick Defayette me reçoit un 30 décembre 2008, où il me fait asseoir dans son bureau, en me proposant un petit café, pour me dire, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires informatiques? C'est là où je prends un avocat, parce que je commence vraiment à avoir très peur. Et l'inspection du travail que je vois à cette époque-là me dit, mais vous devriez demander un écrit sur cette demande de destruction de fichiers.
Vous commencez à avoir peur et vous tournez à la fois vers un avocat et vers l'inspection du travail.
Absolument. Je ne sais pas si vous avez vu ce film avec Tom Cruise qui s'appelait La Firme, mais je me suis sentie exactement comme dans ce film. C'est-à-dire, il se passe quelque chose d'ultra grave, finalement j'en fais partie... Je ne comprends pas vraiment de quoi retourne. En tout cas, je suis piégée. C'est-à-dire, j'apprends finalement par des banquiers que j'ai été mise en risque par mon employeur que je respecte et pour lequel je travaille plus de 80 heures par semaine, en n'étant jamais chez moi et en étant toujours entre deux chambres d'hôtel, deux aéroports, deux gares et deux événements. J'apprends que j'ai été mise en risque. J'apprends qu'on me demande de détruire des données finalement sans instruction écrite. Et l'avocat m'apprend que si je détruis des données sans instruction écrite, l'entreprise pourrait se retourner contre moi en disant que j'ai sciemment détruit mon outil de travail. C'est-à-dire, vous vous dites, mais attendez, ils sont en train de construire une toile d'araignée pour qu'effectivement je ne m'en sorte pas. Et l'inspection du travail me dit... Madame Gibault, je prends bonne note de tout ce que vous me dites. Vous êtes une salariée protégée. Posez toutes ces questions en réunion. Et puis finalement, au fur et à mesure du temps, en 2009, elle me dit, Madame Gibault, vous allez porter plainte contre votre employeur.
Alors juste, vous êtes protégée parce que vous êtes élue au CHSCT.
Parce que je suis élue au CHSCT, voilà, et puis parce que aussi en tant que collaborateur honnête, je ne sais pas comment vous le dire autrement, ayant prévenu l'inspection du travail de ces dysfonctionnements, l'inspection du travail me dit elle-même qu'elle va donc faire un signalement et un procès-verbal auprès du procureur et que moi, en portant plainte contre mon employeur, ça évitera aussi que pénalement, j'ai des problèmes à titre personnel. Et là, vous vous dites, mais comment est-ce que moi, je peux avoir un problème à titre pénal alors que je n'étais pas au courant de ce que je faisais depuis 10 ans ? Enfin, pas au courant, je savais quel était mon métier, mais effectivement, je n'ai jamais su derrière quel client ouvrait un compte, avec combien et auprès de qui. Et en fait, c'est là où j'ai compris à partir de 2009 que tout est cloisonné dans les banques et que tout est cloisonné pour que justement, personne n'ait un spectre total de... ce qu'on appelle le core business, c'est-à-dire le métier effectif de la banque. Et puis, à la même époque, éclatent d'autres affaires. Alors, il y a l'affaire HSBC, il y a l'affaire Julius Baer, qui finalement sont des copier-coller de l'affaire UBS. Donc, là, c'est finalement un autre effet qui se coule, c'est-à-dire que vous vous dites, il n'y a pas que mon employeur, c'est que finalement, toute l'industrie bancaire serait comme ça. Donc, en 2009, finalement, moi, je porte plainte contre la banque. Au même moment, l'inspection du travail reçoit un PSE, un plan de licenciement d'UBS de 100 personnes. Et là, il se passe un truc absolument incroyable, c'est-à-dire que l'inspection du travail valide le licenciement de mes 99 collègues, à part le mien.
Considérant vos années de service ici, j'espère que vos 19 années au service de cette firme, qu'il est clair que toutes ces mesures ne sont aucunement un jugement de cette firme à l'égard de toute votre performance ou de votre caractère.
This bitter earth, well, what the fruit it bears, what good is love, that no one shares.
Alors juste pour récapituler avant de venir à ce licenciement, enfin ce licenciement qui n'a pas abouti du coup, depuis juin 2008, vous êtes harcelé, mis au placard dans votre travail. Vous rencontrez des collègues à qui il arrive la même chose et qui vous parlent également de carnet de lait, de comptabilité parallèle. Donc on va y revenir, mais en gros, vous vous rendez compte que ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'affaire Birkenfeld et en France avec l'affaire HSBC, il se passe la même chose chez UBS, c'est-à-dire que la banque incite des clients français à placer leur argent sur des comptes offshore pour ne pas payer d'impôts dessus, ce qui est illégal.
Absolument, et c'est tellement violent que, moi, premièrement, je n'y crois pas. Et quand je vois finalement la pression qui a été exercée contre moi, là on peut rejoindre Julian Assange, c'est-à-dire qu'on ne met pas les gens dans des situations de stress et de pression aussi importantes si effectivement il n'y a pas un mensonge derrière qui est un mensonge organisé. Moi j'étais la première à me culpabiliser de ça, donc je me suis demandé ce qu'il fallait que je fasse à titre personnel, c'est-à-dire que tant que je ne savais pas, je ne pouvais pas en parler. À partir du moment où, j'ai compris que j'étais mise en risque, 2, qu'on m'avait utilisée, 3, qu'on m'avait menti, 4, qu'on me prenait aussi pour une folle depuis quelques mois, puisqu'on me dit que je suis fatiguée, qu'il faut que je prenne des vacances, qu'il n'y a jamais eu de banquier suisse, ni sur les événements que j'organisais, ni à l'intérieur des équipes commerciales, que je n'avais jamais travaillé avec France Internationale, alors que j'avais des tonnes de billets d'avion qui prouvaient que j'allais à Genève régulièrement et que je voyais mes collègues de Genève, ou qu'elles venaient ici en France travailler avec moi. Mais moi, j'étais en état de stress absolu. J'en ai d'ailleurs même fait une dépression en 2009. J'ai été arrêtée pendant 2 mois, alors que je suis quelqu'un qui a une énergie débordante. Je me suis dit, mais comment est-ce que je vais pouvoir m'en sortir ? Donc finalement, je dénonce à la fois par ces réunions de CHSCT, j'écris à titre personnel, donc en tant que collaboratrice, au président, au directeur général, avec accusé réception, tout le monde me dit la même chose. Tout le monde dit que je suis fatiguée et que je dois prendre des vacances, le président, le directeur général. Je croise le directeur juridique, qui est d'ailleurs aussi encore en poste aujourd'hui, comme la DRH, qui me dit « mais écoute, ton histoire de carnet du lait, j'en ai jamais entendu parler. Le directeur général, c'est quelqu'un d'extraordinaire, en qui j'ai toute confiance. » Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous êtes dans un film.
Que deviendra-t-il de mes dossiers actuels? Je suis en plein milieu d'un travail.
La firme a complété son plan de transition et maintenant, elle est préparée à prendre votre relève. Mais nous apprécions l'intérêt que vous y portez.
Comme chez UBS, les choses se sont envenimées, à savoir que j'ai été, après ce plan de licenciement, finalement dégradée. C'était une façon de, finalement de me punir d'être restée dans la banque. Je suis devenue responsable des hôtesses d'accueil au troisième étage de la banque, qui était l'étage où on accueillait les clients. Et donc ma mission était maintenant, enfin, à partir de ce moment-là, de voir si les plantes vertes et les fleurs étaient bien arrosées, s'il y avait des brochures dans les salons. C'est-à-dire que là, toutes les compétences que j'avais finalement et tout ce que j'avais fait depuis des années étaient absolument plus reconnues. Et l'inspection du travail que je continue à voir me disait « Madame Gibault, ne vous inquiétez pas, je suis là, ta-ta-ta-ta-ta-ta ». Jusqu'à cette visite surprise, je crois que c'était en 2011, où effectivement elle a écrit après sa visite d'enquête qu'effectivement la jurisprudence dit qu'un collaborateur ne doit pas être dégradé de la façon dont je l'ai été. Et puis, l'année 2011 m'a réservé d'autres surprises, c'est-à-dire que j'allais, comme tous les ans, m'occuper de la loge à Roland-Garros, puisque donc avec l'intervention de l'inspection du travail, j'ai repris mon poste marketing, qui avait été donné entre-temps à une jeune femme qui avait l'avantage d'être à la fois bien plus jeune que moi et dont les parents avaient leur compte à Genève, chez UBS. Donc c'est, si vous voulez, c'est juste édifiant. Donc je reprends mon poste, tant bien que mal, après le courrier qui a fait suite à cette visite de l'inspectrice du travail. Et je me retrouve à Roland-Garros, donc dernière semaine de mai, première semaine de juin. Et avant d'y aller, je reçois un coup de fil en numéro masqué sur mon téléphone portable d'une dame. Et au bout de quelques instants, je comprends qu'elle fait partie d'une équipe qui travaille pour le ministère des Finances. Et je me dis, alléluia, c'est-à-dire que ma plainte, la plainte que j'ai déposée quand même plus d'un an et demi avant, ben finalement, dont j'avais jamais entendu parler, c'est qu'elle a dû aboutir quelque part. Et c'est qu'enfin, il y a d'autres fonctionnaires, c'est-à-dire que là, on n'est plus sur le ministère du Travail avec l'inspection du Travail, on est sur le ministère des Finances. Donc ça veut bien dire que ce que j'ai écrit était d'importance, etc.
Donc juste là, ce que vous vous dites, c'est que vous avez été entendu, pas que pour les problèmes de harcèlement dont vous avez parlé, c'est-à-dire que les problèmes de harcèlement, vous avez été entendu assez rapidement à l'inspection du travail. Sur l'aspect évasion fiscale pour lequel vous avez déposé plainte un an et demi auparavant, vous vous dites enfin, ça y est, il se passe quelque chose.
Eh bien voilà, je me dis une deuxième fois, alléluia. C'est-à-dire que l'inspection du travail m'avait dit qu'elle était là pour me protéger en tant que salarié et en tant que secrétaire du CHSCT. Donc quand on est élu du personnel, effectivement, on représente les collaborateurs et l'intérêt des collaborateurs. Parce que ce qu'il ne faut pas perdre de vue, et ça je l'ai analysé qu'après, c'est-à-dire que si je n'avais pas porté plainte contre la banque, ça veut dire que j'aurais accepté d'en être complice à partir du moment où j'ai compris ce que je viens de vous raconter. C'est-à-dire que vous vous retrouvez dans un corner, vous vous retrouvez dans une situation où vous n'avez pas d'autre choix, puisque vous pouvez être complice. Et si j'avais été complice, je serais comme mes collègues, c'est-à-dire que je serais partie un matin à 5 heures avec les menottes devant mes enfants, ce qui pour moi était complètement inconcevable. Et moi donc, quand ces équipes des douanes me tombent dessus au printemps 2011, je leur dis « Mais attendez, mais je comprends pas pourquoi vous me dites qu'il y avait des banquiers suisses à Roland-Garros. Moi, depuis que j'ai embêté la banque par les PV de CHSCT, on nous a fait signer un nouveau code de déontologie où il est écrit que les banquiers étrangers ou qui travaillent dans les entités à l'étranger ne peuvent plus recevoir leurs clients dans les bureaux en France. » Donc je dis, moi, vous savez, je ne travaille plus avec France Internationale depuis un an et demi, c'est comme s'il y avait une muraille de Chine, je ne comprends pas. Et on me dit, Madame Gibault, nous on est certains, nous aux douanes, on est certains qu'il y aura des banquiers suisses. Et donc en fait, il m'explique qu'il y a une équipe qui va me suivre pendant 15 jours, avec des photographes, patins, machin, couffin, et qu'au final, on se rencontre 3 fois pendant cette quinzaine, qu'effectivement, il y a toujours bien des collaborateurs d'UBS en Suisse qui sont là. Je tombe nez à nez avec l'un d'entre eux à un moment donné. Je tombe nez à nez avec des clients sur lesquels il y avait un problème de billetterie. Et où je me dis, mais finalement, la banque avait menti à tout le monde, a mis en danger quand même des gens comme moi. Ils nous ont dit que tout était réglé, ce que je croyais moi. Et puis en fait, c'est encore un mensonge organisé. Et Et donc, à partir du moment où il y a cette histoire de Roland Garros, ben écoutez, pendant plus d'un an, c'est-à-dire jusque l'été 2011, je vais être convoquée régulièrement par cette entité pour remettre des documents à leur demande qui ne font pas forcément partie de mon périmètre professionnel et que moi, naïf comme je suis, je me dis, mais bien évidemment, ces gens-là vont me protéger. Et fin 2011 arrive finalement un copier-coller de l'affaire Kerviel. Ça fait encore trembler la banque une fois de plus parce que je vous ai expliqué l'histoire des subprimes, l'histoire de Birkenfeld, l'histoire Madoff. Voilà maintenant la banque d'investissement encore en risque avec ce trader. Et donc UBS, qui avait déjà licencié beaucoup de personnes sur la planète, continue à licencier à cause de cette perte. Et donc à Paris, UBS décide de licencier 8 collaborateurs plus moi. Et là, cette fois-ci, l'inspectrice du travail me laisse partir en disant « Madame Gibault, vous avez fait votre travail de citoyenne, de cadre, d'élu. L'histoire, maintenant, va suivre son cours avec la justice. » Et puis voilà, donc moi, je suis partie d'UBS il y a maintenant plus de 6 ans en me disant « Très bien, je vais me remettre de ces émotions qui sont complètement surréalistes quand même. Hein. » Puis ma vie va reprendre comme avant. Et là, j'ai encore fait une erreur d'appréciation, mais excessivement grave. C'est-à-dire que l'affaire est devenue publique à ce moment-là. Donc, aller savoir qui a donné justement mon nom aux médias, etc. Est-ce que c'est la banque? Est-ce que c'est Bercy? Est-ce que c'est je ne sais qui? Est-ce que c'est l'inspection du travail? L'histoire nous donnera peut-être la réponse à terme. Mais c'est-à-dire que moi, je me suis retrouvée exposée médiatiquement, parce qu'on a beaucoup parlé de lanceurs d'alerte, de ceux qui vont vers les médias et de ceux qui veulent médiatiser une affaire, mais moi j'étais pas du tout là-dedans. Moi, l'alerte, je l'ai faite en interne, à la fois auprès de toutes mes hiérarchies, et puis je l'ai fait en tant que collaborateur élu auprès de la direction sur des PV, donc des procès-verbaux et des réunions officielles. L'alerte, je l'ai faite aussi auprès de l'inspection du travail. L'alerte, je l'ai faite aussi auprès de tous ces acteurs de Bercy que j'ai rencontrés. Donc moi, j'avais fait ce que j'avais à faire et je comprenais pas. Donc quand, avec insistance, les médias m'ont dit « Mais si, c'est important, ta 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 », j'ai une fois de plus penser que tout ça, ça allait me protéger. Et puis finalement, ben voilà, les premiers médias, je crois que c'était 2011-2012, c'est une affaire tellement importante qu'il aurait eu été de premier ordre de protéger quelqu'un comme moi. Finalement, moi, eh bien, depuis le 10 février 2012, date où j'ai été licenciée, eh bien, le monde du travail m'a tourné le dos. Toutes les portes étaient fermées, uniquement parce que je m'appelais Stéphanie Gibault et que mon nom aujourd'hui n'était pas lié ni à la carrière que j'ai eue, ni à la personne que je suis, mais juste à cette histoire UBS, que finalement j'ai dénoncé, mais que je subis de manière inacceptable dans ce pays qui se dit être le pays des droits de l'homme et qui a dans sa constitution la liberté d'expression.
Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes par rapport à cette histoire? Est-ce que vous avez des procès?
Oui, mon premier livre, La femme qui en savait vraiment trop, est attaquée en diffamation. Donc j'avais déjà été attaquée en diffamation par UBS en 2010, où j'avais dû me justifier au tribunal de police. Bon, j'avais été relaxée, et ça c'était pour le contenu des procès-verbaux de CHSCT, c'est-à-dire que c'était ce qui s'appelle techniquement de la diffamation non publique. Non publique parce que ça restait dans un périmètre professionnel. Là, c'est du droit de la presse. Donc c'est en cours. Il y a le fameux procès pénal où je viens d'apprendre via mon avocat David Koubi que je suis partie civile. J'ai une procédure au tribunal administratif, effectivement, contre l'État français, qui m'a demandé toutes ces informations, qui finalement m'a fait travailler pour elle, qui m'a mise en risque. Et voilà, donc il y a ces 3 procédures en cours.
Juste la dernière, vous parlez de ce que vous racontiez tout à l'heure sur Roland Garros, où des agents des douanes vous ont demandé des informations que vous leur avez données.
Absolument, c'est-à-dire c'est toujours la même chose. Pourquoi est-ce qu'ils sont venus vers moi? Qui a donné mes coordonnées et pourquoi? Et pourquoi surtout est-ce que j'ai pas été protégée? Pourquoi est-ce que j'ai pas été reconnue par l'État français? Le pire de tout, si vous voulez, c'est de m'être finalement retrouvée face à Michel Sapin en 2016.
Le ministre des Finances à l'époque.
Pardon, oui, le ministre des Finances sous le quinquennat Hollande, qui dit être le ministre qui lutte contre la fraude fiscale, qui dit être le ministre qui veut donner son nom à une loi qui effectivement s'appelle la loi Sapin. Sapin 2 pour protéger les lanceurs d'alerte, mais qui finalement dit, écoutez, Madame Gibault, je peux rien faire pour vous. Et le pire de tout, c'est que j'ai des écrits de Bercy qui disent, mais Madame Gibault, vous n'êtes pas lanceuse d'alerte dans le dossier UBS, vous êtes juste un témoin que nous avons utilisé dans un dossier. C'est-à-dire que le premier à ne pas respecter la loi, c'est l'État. L'État, via ses ministres, via ses députés, fait voter des lois et que finalement, on s'arrange pour que vous ne rentriez pas dans le périmètre de cette loi. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que les douanes sont venues vers moi ? Qui leur a donné mon nom ? Qui leur a dit que j'avais ces informations ? Et pourquoi, si effectivement, comme le dit Michel Sapin, j'ai aidé son administration à recouvrer à la fois des processus qu'ils ignoraient complètement et des noms et des comptes dont ils n'avaient pas information, pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, je ne suis pas reconnue par l'État français pour avoir justement refusé de fermer les yeux sur une affaire qui est une affaire d'une gravité absolue, puisque le ministre dit lui-même, c'est 30 000 comptes offshore à hauteur de 19 milliards d'euros. C'est-à-dire que là, vous êtes sur le cœur du problème, que finalement, quand on parle de lancement d'alerte, le problème n'est pas l'employeur, l'ex-employeur ou l'administration, le problème c'est l'État, qui est le premier à ne pas faire appliquer des lois, qui est le premier à contourner ces lois. Comment est-il possible qu'on aide une administration et qu'on se retrouve en tant que femme, en tant que cadre, en tant que mère de famille, dans une situation de précarité, à être sortie complètement de tous les périmètres? C'est-à-dire que quand, moi par exemple, j'étais auditionnée, bien évidemment, au Sénat en 2012, à l'Assemblée nationale en 2013, sur ces histoires d'évasion fiscale, mais j'étais aussi auditionnée à l'Assemblée nationale en 2016, quand la loi de protection de lanceurs d'alerte, donc la loi Sapin 2, a été préparée, et les rapporteurs de la loi, dont l'un de ces rapporteurs est une femme députée de Paris, dit, mais Mme Gibault, on va vous aider, c'est incroyable que vous ayez à quitter votre appartement. Et puis finalement, ce sont des mots, ce sont des paroles, il n'y a aucune action. C'est absolument incroyable, au-delà de mon propre cas, de voir ce qu'on a fait à mes enfants, par exemple, de ce qu'on a fait à mes parents. Parce que qu'est-ce que j'ai fait de mal, moi ? J'ai fait juste que suivre toutes les lois de notre pays. J'ai respecté le droit du travail, j'ai respecté le droit pénal, j'ai respecté tout. La preuve, c'est que j'ai été traînée au tribunal en 2010 et que je n'ai pas été accusée de diffamation. J'ai gagné contre UBS au Prud'homme en 2015, il n'y a pas eu d'appel, où le jugement dit très clairement que j'ai été harcelée parce que j'ai refusé de détruire des données tendant à prouver l'évasion fiscale en bande organisée mise en place par mon ex-employeur. Et en fait, derrière, il n'y a personne. Il n'y a pas un ministre, il n'y a pas un député, il n'y a pas un président qui ait le courage de souligner que l'exemplarité est obligatoire pour chacun d'entre nous, quel que soit le rôle que nous jouons dans notre société. Et les premiers à montrer l'exemplarité, ça devrait être eux. Et ce sont bien les derniers à nous soutenir. C'est juste tellement choquant, si vous voulez, que... Ben, que je ne sais plus quoi vous dire.
Stéphanie Gibault a raconté son histoire dans un livre paru en 2014, La femme qui en savait vraiment trop. Son ancien employeur UBS a porté plainte en diffamation contre plusieurs passages de ce livre. La banque nie les allégations d'évasion fiscale, de comptabilité parallèle, de complicité de démarchage bancaire illicite, de destruction de preuves et de harcèlement. La diffamation sera jugée après le procès en correctionnel pour démarchage illicite et blanchiment aggravé de fraude fiscale qui vise UBS et qui s'ouvre ce procès dans quelques jours, c'est-à-dire le 8 octobre à Paris.
Monsieur Sapin, soyons clairs, est-ce que ce soir, face à Stéphanie Gibault, vous prenez un engagement ?
C'est pas le ministre des Finances qui décide la mise en œuvre de tel ou tel dispositif. Mais moi, mon rôle, au-delà bien sûr de l'attention à la personne qui est ici aujourd'hui, c'est de faire en sorte que la loi, à l'avenir, protège les lanceurs d'alerte.
Stéphanie Gibault, une femme qui en savait trop, c'était une émission signée Léo Caravagna, production Ziad Malouf, réalisation Simon De Creuse. En coulisses de l'atelier, Camille Deloche et Camille Sarrazin qui vient de rejoindre notre équipe. Bienvenue à elle. Pour nous réécouter, bien entendu, pensez podcast.